1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
J'ai l'impression qu'on en a un peu dans le studio. On laisse voir, on lui met un casque et il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chez toi, je commencerai à m'entraîner.
C'est cool, ça va réveiller les voisins.
Bonjour à tous et toutes. Ici les décadrés sur PFM 99.9. Comment vous allez aujourd'hui?
Très bien. Hey, j'étais le premier à répondre.
Ah bah moi ça va, ça va.
T'en es joli?
Non.
Non.
Non, non pas vraiment.
Oh putain, ce manque d'énergie dès le matin.
Nous recevons aujourd'hui Guillaume Méral. Guillaume qui a eu un master filmologie.
Bonjour à tous.
Et qui est en doctorat et qui est aussi actuellement employé au Cinémovida d'Arras.
C'est exact.
Et justement, aujourd'hui, enfin plutôt ce vendredi 27 mai, a eu lieu au Cinémovida d'Arras la soirée cinéma et jeux vidéo, notamment organisée par Guillaume Méral, ici présent. Et donc, il faut dire que tu es aussi rédacteur au quotidien du cinéma.
C'est toujours exact. Si la formation c'est bonne.
Voilà. Donc, au programme de la soirée, on a eu deux films, Scott Pilgrim vs. The World, une présentation d'Uncharted 4, A Fifth's End, donc là qui est un jeu vidéo, et la projection du deuxième film qui était Warcraft, le commencement de Duncan Jones en 3D. Donc les deux films ont été présentés par Guillaume, et Uncharted a été davantage promu et vendu que présenté par Maxime, qui est un vendeur du Micromania d'Arras.
Maxence.
Maxence, pardon.
Attention.
J'étais presque. Alors, à noter qu'il a distribué des lots d'invendus ou futurs invendus. Donc, moi, j'ai pensé au futur boîtier métal, enfin, boîtier métal du jeu Homefront The Revolution, qui est un gouffre financier qui a plus que divisé les critiques et les joueurs. Donc,
Moi, j'ai quand même eu une plaque de Overwatch métallisée. Et puis, j'ai eu un magazine des chevets du Zodiac.
Exact. Voilà. Donc, il y a eu des lots gratuits et des lots bien plus intéressants. Donc, il y avait aussi un lot avec un jeu sous blister Uncharted 4.
Exactement.
Et un livre sur l'histoire de la PlayStation que je vous conseille fortement. Donc, ça, c'était à gagner avec des questions assez faciles.
Ouais. Hein
Donc aujourd'hui, mesdames, nous reviendrons sur le cours de cette soirée, précisément sur les films et surtout sur la réflexion sur les rapports jeux vidéo et cinéma amorcés par Guillaume, donc il a particulièrement parlé d'un renouveau. Mais avant cela, donc il a bien expliqué que le cinéma et les jeux vidéo ont entretenu de nombreux échanges. Donc Star Wars a inspiré le jeu vidéo il y a bien longtemps déjà. Le jeu vidéo a inspiré le cinéma avec Tron, on peut le citer. On a eu les premières adaptations des jeux en 2D donc dans les années 90 avec Mortal Kombat, Street Fighter ou Super Mario Bros. En 95, et ce n'était pas des cadeaux.
93 Super Mario Bros.
Mais il y en a un qui était 95. Mortal Kombat.
C'est peut-être Anderson, Mortal Kombat ou.
Double Dragon, peut-être.
Ah, Double Dragon.
Ouais, ouais,
ouais. Et donc, comme tu l'as bien dit, Guillaume, donc, l'adaptation a toujours été un parent pauvre du cinéma populaire. Puis il y a eu dans les années 2000 une nouvelle vague d'adaptations de jeux vidéo au cinéma, et ouais. Je peux vous dire que j'ai une grosse liste. Et tout ça, donc ça tient du pire comme du meilleur. Non, on va pas se mentir, ça tient du pire.
Du pire comme du moins pire.
Des fois, il y a certains, enfin comme ça, je pense à Silent Hill, le premier, qui est pas trop mal.
C'est Christophe Jean. C'est.
Ouais.
Donc, parce que moi je pensais à Doom. Far Cry, Alone in the Dark, bon, tous les films du Weeble. Ensuite, il y a eu Max Payne, Tomb Raider, Resident Evil, et donc toute la saga Resident Evil. Il y a eu Hitman, les deux volets, Final Fantasy et Silent Hill. Et ce que tu as très bien noté, Guillaume, c'est que les films réussis sur le jeu vidéo n'étaient pas forcément des adaptations directes. Donc on peut penser Scott Pilgrim qui était diffusé, Speed Racer, Tron et sa suite Existence de David Cronenberg, Les Mondes de Ralph dernièrement chez Disney Marvel. Et ou encore, on peut penser à des films qui ne parlent pas directement de jeux vidéo, mais qui utilisent des codes du médium, Avatar, Inception, Sucker Punch ou encore Hypertension. Crank.
C'est Crank, Jason Statham.
Voilà. Un renouveau arrive. Donc, en effet, les studios et boîtes de développement et production des jeux s'impliquent directement dans la conception des films. Donc, Blizzard Entertainment s'est par exemple appliqué sur Warcraft. Mais on va revenir vite fait sur la soirée. Donc, il ne s'agira pas non plus de faire la pub de la soirée. Hein, mais parce qu'on va revenir sur, par exemple, la présentation décevante d'Uncharted. Pourquoi décevante? Parce que complètement commerciale, tout simplement. Alors qu'avec un tel matériau, on se disait qu'il y avait de quoi dire. Antoine, il vous avait déjà parlé ici des studios du jeu Naughty Dog.
Ouais, ouais.
Lorsqu'il vous
The Last of Us. Ouais.
Voilà, l'occasion de la présentation de The Last of Us. Il avait évoqué Neil Druckmann, qui est scénariste réalisateur chez Naughty Dog.
Ouais, depuis... et qui est aussi pas réalisateur, mais scénariste pour Uncharted 4, justement.
Ouais, enfin, qui était en fait scénariste sur toute la série, j'ai regardé.
Ah oui, oui.
Et réalisateur sur le dernier Uncharted, ouais. Co-réalisateur.
Exactement.
Et du coup, toutes les possibilités et frustrations d'une éventuelle adaptation. Mm. Et donc, aujourd'hui, pas de news. Donc, Antoine va revenir sur Scott Pilgrim, ouais. Ange, qui fait l'idiot derrière.
C'est pas vrai, j'ai fermé la porte en silence.
Ouais, donc Ange va gérer Warcraft le commencement. Ouais. Et ensuite, on va débattre sur cette adaptation en dents de scie. On va parler du renouveau de l'adaptation au cinéma, donc avec l'application des boîtes de jeux vidéo. Et enfin, on viendra sur Uncharted 4. Donc voilà pour le programme, mes agneaux, et maintenant place à Antoine.
Alors voilà, moi dans le cadre de cette soirée cinéma et jeux vidéo que nous a proposé Guillaume au Cinémovida d'Arras.
Je voulais juste préciser, la soirée j'ai vraiment co-organisé avec mon collègue Adrien Joly, donc on s'est impliqué vraiment à parts égales. Donc,
je me suis fixé sur l'affiche. Qui était
en fait, bah, l'affiche c'est lui qui l'a conçue justement.
Et bah du coup donc cette soirée cette soirée cinéma et jeux vidéo par Guillaume et Adrien dont nous remercions l'invitation.
Exactement.
Tout à fait.
Donc le premier film de la séance était donc Scott Pilgrim versus The World. Alors film réalisé par Edgar Wright. Alors pour ceux qui connaissaient Edgar Wright, on lui doit la Cornetto trilogie, hein, comme Guillaume tu nous avais expliqué lors. Voilà, ou aussi Spaced, la série britannique culte. Culte qui les a fait connaître. Et aussi savoir que Edgar Wright a travaillé aussi sur, par exemple, Ant-Man, enfin sur l'une des versions de scénario de Ant-Man.
Qui est encore au générique.
On est producteur exécutif aussi, je crois, ou un truc dans ce genre-là.
En fait, plus exactement, il travaillait sur le projet depuis 2006, quoi. Il est parti de lui-même 3 semaines avant le tournage.
Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, voilà, c'est une bonne. C'est un peu triste, mais Ant-Man est quand même sympa, donc vous pouvez le regarder. Alors, Scott Pilgrim, qui est une adaptation de Scott Pilgrim, la bande dessinée de Brian Lee O'Malley. Alors, un film qui se passe donc à Toronto et qui nous raconte l'histoire de Scott, interprété par Michael Cera, jeune gars de 23 ans, sans emploi, mais tout de même bassiste dans un groupe de rock nommé les Sex Bombombs. Et qui va rencontrer la fille de ses rêves qui s'appelle Ramona Flowers. Voilà, qui est interprétée par Marie-Elisabeth Winstead, qu'on peut retrouver par exemple dans Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, il me semble, qui joue la femme d'Abraham Lincoln, justement.
Elle joue aussi la fille de John McClane dans Les Inénarrables, 4 et 5.
Voilà. Allez, merci, Guillaume. 5, c'est vrai. Merci Guillaume. Donc jusque-là, au niveau du scénario, on se dit, bon, c'est un scénario normal, une histoire normale, tout ce qui est plus banal, voilà. Voilà, mais si Scott veut pouvoir vivre son amour avec Ramona, il lui faudra d'abord combattre les 7 ex maléfiques de ces dernières qui ont des futurs pouvoirs comme voler en dansant et en chantant ou encore la capacité de se transformer en Super Saiyan parce qu'ils sont végétaliens. Voilà. Et maintenant, vous vous dites que ce film doit être vachement cool. Voilà un film qui transforme une histoire normale en une véritable quête épique aux allures de jeux vidéo, le tout dans des combats bien rythmés, filmés avec maîtrise.
On peut le dire.
Voilà, en fait...
Le mot est faible.
Voilà, Scott Pilgrim, c'est comme une projection de nos fantasmes d'ado en fait. Le film transcrit l'univers du jeu vidéo par des effets visuels avec des indicateurs comme la barre de score, la barre de combo, versus, KO, mais également avec la présence des pièces. D'ailleurs, il y a de nombreuses références comme des effets sonores tirés de Sonic le Hérisson, le jeu vidéo qui était sorti sur Mega Drive, ou encore Super Mario Bros. Que vous pouvez retrouver sur Nintendo. Ah, et puis écoutez aussi ce petit son là. Bref, j'arrête là parce que... Non mais honnêtement, le film a énormément de références que vous pouvez vous amuser à retrouver en regardant le film. Il y a le cri de Willem aussi qui apparaît dans le film plusieurs fois.
Il est bien présent.
Ouais. Il est bien présent. Et il y a énormément de petites références. Donc si vous voulez vous faire une petite séance, si ça peut vous donner l'occasion de regarder le film, allez-y. Alors, Tout à l'heure, je vous parlais, oui, donc des pièces. Alors, il faut savoir que ces pièces sont des pièces qui sont ramassées par Scott à chaque fois qu'il aura battu l'un des ex maléfiques de Ramona. Des pièces qui lui permettent de monter son score afin qu'il puisse aussi récupérer de l'expérience. De l'expérience qui lui permet de combattre face aux différents ex sur la liste. Et ce que je trouve tout à fait formidable dans ce film, c'est qu'au final, c'est l'histoire simple d'un gars normal qui va décider de prendre sa vie en main. Il vit des épreuves et à la manière d'un jeu vidéo, il se sert de sa victoire pour récupérer de l'expérience et permettre ainsi de progresser. Mais il est vrai qu'on pourra en effet constater dans le film, malgré tout, une certaine linéarité puisqu'on comprend vite de la manière dont il va évoluer avec les différents combats qui vont succéder, les différents ex. On a 7 ex, on s'attend donc à avoir 7 combats. En termes de rythmique de film, on est sur un déroulement assez proche à chaque fois.
Comme un jeu vidéo, voilà. des boss.
C'est ça, voilà. Donc, moment plateforme, entre guillemets, où on est avec Scott dans la vie quotidienne, et moment jeu vidéo où on est sur... voilà, entre 5-10 minutes de combat. Ouais. Mais malgré tout ça, c'est vrai que ce style linéaire peut paraître, pour la première fois, lorsqu'on regarde le film la première fois, peut paraître assez étrange. Mais cependant, bah, la mise en scène et l'évolution du personnage de Scott vont nous permettre de nous rattacher au côté beaucoup plus humain de l'histoire. Et il ne faut pas non même, parce que faut pas oublier que c'est aussi une comédie dramatique.
Oui, bien sûr.
Une comédie romantique, c'est le, enfin voilà, comme je disais, un jeune homme qui rencontre la fille de ses rêves et qui va tout faire pour l'avoir auprès de lui. Donc c'est avant tout aussi une histoire d'amour en fait à la base. Donc le côté plus humain se situe entre chaque combat. Et mais malgré tout, il ne faudra pas oublier les nombreux combats qui vont nous faire frémir, les musiques qui vont nous endiabler nos esprits, mais surtout, surtout, il ne faut pas oublier la belle Ramona Flowers qui va nous faire rougir. Et je vous laisse sur un morceau du groupe Sex Bomb Bomb de Scott Pilgrim, We Are Sex Bomb Bomb.
C'était les sexes de bonbons et
hésitez à ouais. Sexes de bombes.
Donc Antoine avec Scott Pilgrim et maintenant on enchaîne avec Ange sur enfin dans un monde dans un World of Warcraft et le plutôt le film Warcraft le commencement.
Alors j'en attendais beaucoup de ce film mais j'ai remarqué une chose, je vais vous résumer en fait ce que j'ai vu tout d'abord. Donc un héros poilu, au pied poilu, un nain roux, des grosses bestioles volantes. Des orques en pleine conquête du monde, un mage qui retourne sa veste, un magicien qui se bat pour le bien. Donc voilà, ce qui compose grossièrement ce que j'ai vu du film Warcraft. Donc non, je ne vais pas vous parler du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de Warcraft. Donc un film attendu depuis des temps immémoriaux de la part des fans du fameux jeu World of Warcraft, ou WoW pour les intimes, fans desquels je ne fais pas partie. Je ne suis qu'un amateur auprès de cet univers, hein, mais ça ne m'empêche pas d'en connaître quelques éléments. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il s'agit d'un jeu de rôle en ligne dans lequel vous pouvez interpréter un personnage au choix, allant de l'humain au nain, gobelin, panda, orque et bien d'autres encore. Donc un univers pleinement inspiré de la bien connue Terre du Milieu créée par J.R. Tolkien, qui nous a fait vivre l'aventure du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ainsi que Tom Bombadil et bien d'autres aventures encore. Donc Warcraft est un univers aussi immense que celui de Tolkien, il existe un grand nombre de quêtes, de missions, d'histoires permettant aux joueurs de ne jamais s'ennuyer, mais il s'agit aussi d'un jeu aux introductions vidéo d'une qualité tout simplement énorme, qui fit attendre les connaisseurs comme les moins connaisseurs de la sortie d'un film. Bon, en effet, moi qui ne suis pas vraiment le jeu, mais je me suis toujours régalé en regardant leurs introductions que je trouvais parfaitement réalisées, j'en attendais donc beaucoup de la part du film, et ne suis pas totalement déçu. Donc les orques sont tout bonnement magnifiques, très expressifs et presque réels, Mais quand je dis pas totalement déçu, c'est qu'il y a quand même un peu de déception. Eh oui. Donc au niveau de la réalisation, il reste quand même quelques défauts, ce qui est dommage vu les moyens. Ils ont tout mis sur les orques en fait, ce sont les plus beaux malgré leur laideur. Mais pour ce qui est des décors, on remarque qu'ils y ont mis beaucoup moins de moyens. On fait un peu nos chieurs sur ce coup-là, mais on a remarqué avec Antoine et Ben pendant le film que au niveau de jusqu'au niveau de l'herbe en fait, comme qu'Uncharted 4 était quand même mieux réalisé. Donc, voilà. Oui, juste ça, même Antoine m'a prouvé la chose.
Vive l'animation en micro polygone.
Enfin voilà, c'est un détail qu'on a remarqué. Après, il n'y a pas que ça. Hein, je veux dire, niveau de la réalisation, c'est quand même bien foutu. Mais bon, voilà, il y a quand même quelques défauts qui persistent. Donc on retrouve tout de même dans tout ce numérique quelques vrais acteurs, bizarrement beaucoup moins expressifs que les orques, ce qui est étrange tout de même pour de vrais acteurs. Sauf pour un, le personnage principal joué donc Lothar, ou Latar, je ne sais plus exactement.
Lothar.
Lothar. Mais Lothar. Je crois que j'ai revérifié tout à l'heure, c'était Lothar.
Hein. Lothar, t'es pas sympa toi.
Bah, j'en sais rien. Moi. Je sais plus. J'ai pas bien compris. C'est tout. C'est ça aussi pendant le film, j'ai pas tout le temps bien saisi les noms. J'ai l'impression de me retrouver entre un Game of Thrones ou bien Seigneur des Anneaux, je sais pas exactement. Donc voilà, interprété par l'acteur dont j'ai oublié le nom qui interprète Ragnar Lodbrok dans Viking. Donc il est donc le plus expressif du film. En même temps, il s'en prend plein la gueule. Mais bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit une chose par rapport à la qualité qui est donnée dans les introductions du jeu et la qualité des orques dans le film. Pourquoi n'ont-ils pas fait tout le film en numérique? Il aurait été d'une bien plus grande qualité à mon goût et il aurait correspondu à l'aspect voulu pour le film, c'est-à-dire correspondre au jeu vidéo quand même. C'était quand même la base, enfin pas un fan film, mais c'était quand même de répondre aux attentes des fans. Donc voilà.
Puis on aurait peut-être eu un héros qui court pieds nus dans la boue et qui a vraiment les pieds sales.
Et pour les... C'est vrai. Mais pour les orques, le fait qu'ils soient plus expressifs que les humains, c'est aussi parce qu'en fait le film a été partiellement tourné en performance capture, donc la méthodologie d'Avatar, ce qui fait que ce sont des vrais acteurs qui ont vraiment joué leur scène pour être après remodélisés en orque. Donc l'acteur c'était Toby Kebbell qui jouait le rôle de Durotan, qui joue aussi dans La Planète des Singes le deuxième, et qui jouait aussi également un singe en performance capture. Et il jouait aussi le Docteur Doom dans la dernière adaptation des 4 Fantastiques, qui était un petit peu problématique également. Mais bref, voilà quoi. C'est vrai, il est en train, c'est un peu le petit frère d'Andy Serkis. Il est en train de devenir une sorte d'acteur prototype de la performance capture. Quoi.
Ah bah ça se voit qu'il était bien formé déjà à ce niveau-là, niveau expressif. Quoi, parce que les orques, on voit toutes leurs expressions, les sang-vivres vraiment. On dirait qu'ils sont
Ils sont plus expressifs que les acteurs humains. Donc c'est un vrai problème.
Je veux dire, le roi, même si il lui arrive beaucoup de choses aussi dans ce film. J'ai pas été porté par ce rôle.
C'est au point où on se demande quand même à quel point Duncan Jones, le réalisateur, n'a pas tourné tous ses efforts dans la peinture du monde des orques, dans le personnage des orques, qui l'intéressait à mon avis clairement plus que les personnages humains, quoi.
Mais enfin, en tout cas, dans tous les cas, je ne dis pas qu'il est pas beau. C'est pas un film dégueulasse. Donc les paysages sont magnifiques, les créatures sont finement réalisées.
Pas tout.
Encore, ça passe encore. Quoi. On a encore l'aspect très jeu vidéo. Hein, on retrouve les mêmes trucs
qu'on peut retrouver dans les début des années 2000. C'est vrai que c'est bien.
Non, quand même pas. Enfin bon, voilà. Même si les orques, comme on l'a dit, restent bien au-dessus de tout. Ouais. Même si l'entièreté du film avait été fait en numérique, il aurait été encore mieux, je pense. Mm-hmm. Parce que de voir de véritables humains, ça fait un peu tâche à mon goût. Même si les interactions entre numérique et live sont quand même pas mal.
Mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours très réussis.
Quand je vois les nains ou les elfes, qu'on voit clairement que c'est du numérique à côté des humains en live, ça fait tâche, quoi, je trouve.
Je pense que c'est aussi un problème de mise en place de l'univers, hein. C'est-à-dire que le film commence au bout de 10 minutes, t'as l'impression d'en avoir raté une demi-heure, quoi. Aucun développement des personnages, t'as aucune introduction, t'as l'impression de prendre une histoire en cours et tu ne comprends rien à l'univers, la coexistence des humains, des nains et des autres, etc. Tout ça, c'est débalancé aussi.
C'est pas
caractérisé. Par exemple, dans Seigneur des Anneaux, cette coexistence entre nains, elfes, humains, elle est expliquée avec différentes histoires de guerre.
On a des petits flashbacks,
il y a des trucs. Il y a des références à des histoires, à des histoires tout simplement. Alors que là, on arrive direct. Dès le début, on voit en gros le bras droit du prince qui est à la forge avec un nain. Et ils ont l'air d'avoir des rapports assez intimes. Mais à la base, les nains vivent pas avec les humains. Enfin, il n'y a pas de coexistence à la base.
Dans Warcraft, je pense.
Mais justement, même les elfes, c'est... c'est-à-dire qu'il y a un roi pour l'ensemble des royaumes, mais c'est-à-dire que les elfes suivent ce roi. Mais pourquoi ils le suivent?
Mais c'est ça, t'as l'impression...
On ne sait pas. Moi, je connais pas vraiment l'univers de Warcraft. Je connais même pas du tout. J'ai joué un petit peu à Warcraft 3 sur PC. Mais pour moi, il manque vraiment, justement, pour celui qui connaît pas, justement, les clés de l'histoire, en fait.
D'ailleurs, ouais, non, mais je pense que. Non, mais c'est exactement ça, c'est le problème. Je pense que ce film est fait pour ceux qui connaissent déjà l'univers de Warcraft à la base, comme le dernier Star Wars a été fait pour ceux qui connaissaient déjà la mythologie Star Wars à la base.
C'est ça.
Et c'est des films qui jouent avec toi de manière à ce que tu remplisses les trous qu'eux ne sont pas capables de combler à travers une narration et une écriture cinématographique qui soit vraiment en mesure de te présenter un univers de manière bien spécifique. Là, en l'occurrence, tu combles les trous que tu ne peux pas qui sont innombrables dans le film. Et si tu n'as pas la connaissance, si tu peux pas le faire, bah écoute, t'as plus qu'à te débrouiller.
Après, le dernier Star Wars était quand même fait pour un jeune public. C'est pour ça qu'il relançait aussi exactement la même histoire que le 4.
Ouais.
Mais pour revenir sur Warcraft, comme tu parlais de trous, et il y a beaucoup de trous au montage et dans la réalisation, il y a des séquences d'action, on ne sait même pas comment elles sont construites, les personnages. Au plan suivant ou à la séquence suivante,
ils changent de place.
Ils ont complètement changé de situation, de place. Ouais. C'est monté, mais par le mec.
On sait pas vraiment où il se retrouve. Quoi.
Par exemple, le jeu magicien qui se retrouve face au golem, et puis d'un seul coup, plan d'après, se retrouve avec Lothar en train de se cacher dans une tour. Enfin, ça n'a pas de sens.
Ou bien qui se retrouvait à téléporter le golem dans la fontaine, et puis d'un seul coup, le magicien se retrouve aussi dans la fontaine avec lui.
C'est ça.
Enfin, même là.
En fait, c'est pas très bien présenté.
Même par rapport à Medivh, le grand mage du film, le gardien de Warcraft, ça c'est compliqué parce que lui en gros c'est le Saruman de cet univers qui retourne sa veste, mais on sait pas pourquoi en fait. On sait qu'il l'a fait, on le devine assez facilement, je trouve simplement que c'est forcément
par
lui,
pouvoir, en fait,
mais par le
Fel. On sait pas comment il a été contaminé, beaucoup d'informations quoi. Parce qu'au final, le Fel, on sait que ça vient de l'univers des orques, et au final, d'où est-ce qu'il vient dans le monde des humains?
Ils ont mangé trop de falafel, du coup, ils sont malades.
C'était une blague très mauvaise.
La Benjamin de Neuf Églises,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est comme si tu sortais du Seigneur des Anneaux sans comprendre ce qu'est l'anneau, d'où il vient, d'où il a été forgé.
Côté obscur, donc, voilà.
Moi, je dirais tout simplement que dans Warcraft, ce film, tout simplement, il manquait un peu de Fel quand même.
Moi, je dirais qu'il m'a manqué de. Bon, on va passer.
Vous m'avez bien m'habiter, c'est bon.
En voyant ce film, moi, j'ai retrouvé donc les personnages principaux de Seigneur des Anneaux. En fait, principalement, je vois qu'il y a eu beaucoup d'inspiration. Je dirais pas que c'est un remake du Seigneur des Anneaux, mais on reconnaît largement l'inspiration qui vient du Seigneur des Anneaux. Donc, ainsi, j'ai retrouvé un Saruman, j'ai retrouvé un Gandalf, un Aragorn, un Sam, ou bien même un Fili et Toriel dans Le Hobbit. Enfin voilà, il m'a manqué d'ingénieurs gobelins, de nains, d'elfes en fait qui font la part belle de Warcraft, même de panda peut-être. Et enfin voilà.
Et ce qui fonctionne en jeu n'est pas forcément pour en cinéma. En fait, le jeu est tellement inspiré de Tolkien que c'est agréable d'y jouer en tant que joueur parce qu'on retrouve des références et il y a du gameplay.
Oui, mais justement, il y a du gameplay. Ils auraient pu faire une toute autre histoire, quoi. Parce que là, c'est une histoire carrément inspirée du milieu, alors qu'ils auraient pu faire autre chose.
Après, le Hobbit n'est plus au cinéma, donc Jackson n'a plus la grande place dans l'Heroic Fantasy et Universal, lui, veut tout relancer. Ils ont relancé le film de dinosaures avec Jurassic World. Et ils relancent le film l'Heroic Fantasy avec leur propre Warcraft.
Mais au final, c'est même pas tant le film, le fait que ce soit une adaptation de jeu de problème. C'est aussi le fait, par exemple, il y a certaines choses qui sont tirées, qui sont traitées dans le film, genre le traitement de la romance entre Lothar et la Mi-Orc. Alors je sais pas si c'est dans le roman original ou quoi que ce soit, ou si c'est dans le jeu. Mais le traitement, il en souffre beaucoup. Enfin,
c'est ridicule.
C'est une romance qui naît d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment. Et le traitement, il en est complètement ridicule.
C'est super mal écrit, c'est très mal écrit. Ouais, c'est ça le problème.
Bon, enfin voilà, Warcraft, un film qui nous a fait rire, avec quelques incohérences visuelles et scénaristiques. Un
visuel des belles images quand même.
Incroyable, oui, des belles images.
Ouais, parfois.
Donc un visuel tout de même incroyable, comme je le disais, qui se détache quand même des trilogies de Jackson. Mais j'en attendais quand même plus, et surtout une histoire vraiment bizarre, et non avec beaucoup d'inspiration et de références. Mais bon, c'est un film qui plaira aux fans de l'univers Warcraft, j'en suis certain. Et je pense que c'est ce qui est recherché. Donc pour le reste, je vous laisse avec une petite musique de Warcraft, le film.
Donc nous revoilà Donc voilà, nous voilà. Donc on est bien les décadrés sur 99.9 PFM, ou PFM plutôt 99.9.
Ouais, ça dépend de l'ordre que tu veux. Voilà.
Donc on va revenir rapidement sur ce sujet, parce qu'on a vraiment plus de beaucoup de temps. Les sociétés de jeux vidéo s'investissent maintenant dans le cinéma. Donc il y a eu Blizzard Entertainment et maintenant il y a Ubisoft
qui avec Assassin's Creed
et Splinter Cell et bien d'autres. Ghost Recon normalement avec Michael Bay à la barre.
Splinter Cell avec Tom Hardy.
Voilà, et ils ont leur propre société de cinéma dans la société de jeux vidéo, ce qui leur permet d'entretenir un rapport indépendant à Hollywood. Guillaume, tu veux bien nous en parler?
Oui, alors en fait, combat, c'est que là, par exemple, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, ils s'intègrent vraiment à la manière dont Hollywood fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils visent des grosses licences, des grosses qu'ils appellent les tentpoles, donc c'est des produits culturels qui peuvent se décliner sur plusieurs supports, jeux vidéo, cinéma, séries télé, animation, etc. Et je pense qu'il faut vraiment lire la nouvelle vague d'adaptation de jeux vidéo de cette façon-là. C'est-à-dire que les mecs veulent vraiment construire des univers multimédiatiques où chacun des pôles, jeux vidéo, films, etc., puisse s'interpeller se suivre les uns après les autres. Il y a aussi un autre aspect, le fait qu'Ubisoft et Blizzard aujourd'hui s'investissent de manière aussi proche dans le tournage des films, c'est d'abord pour contrôler les adaptations. Ils savent très bien, ils ont très conscience qu'Hollywood a fait n'importe quoi par le passé avec des adaptations de jeux vidéo, ils ne veulent pas reproduire le truc. Et deuxièmement, c'est qu'ils veulent vraiment créer, je pense, une sorte d'empire, d'empire vraiment multimédiatique.
Non, comme Marvel.
Comme Marvel, voilà. Marvel, Disney, pourquoi les mecs aujourd'hui dominent le marché? C'est parce qu'ils ont la main sur absolument tout. Et je pense qu'Ubisoft savent très bien comment l'industrie va évoluer et va s'accentuer avec les années. Du coup, ils veulent créer une société qui fasse à la fois jeux vidéo, cinéma, série télé, bref, qui ait la main mise sur leur licence pour pouvoir les décliner à l'envie, quoi. C'est à mon avis, c'est très annonciateur de la manière dont l'industrie culturelle va véritablement se structurer et se configurer dans les années à venir.
D'accord. Et du coup, on va aussi enchaîner sur une partie de la présentation. Donc tu t'expliquais que justement, c'était une démo, mais qu'en même temps, il fallait forcément des partenaires dans ce genre de soirée pour les soutenir. Et que forcément, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, il va y avoir une présentation du jeu, comme toi, tu avais fait une super présentation de chaque film. Et du coup, on a eu droit à une démo.
C'est pour ça. Alors peut-être qu'il y a eu un malentendu qui a été cultivé de notre part. Si c'est le cas, my bad. Mais voilà quoi. Non, ça a toujours été conçu comme une présence à des Micromania. D'ailleurs, je vous le remercie encore d'être venu.
C'est sympa.
Merci pour la grille métallique, Maxence.
Je remercie encore d'être venu, mais voilà quoi.
Antoine, il aurait voulu avoir l'autre boîte d'Uncharted pour la revendre.
Et je l'aurais revendu, comme ça j'aurais remboursé celui que j'ai acheté d'Uncharted 4 il y a quelques jours, évidemment.
Et du coup, on voulait dire qu'à quel point Uncharted était touché par le cinéma, autant dans la mise en scène, même dans le jeu. Ce qui était dommage, c'est que d'ailleurs la présentation était faite avec tout en mode assisté, et que par exemple dans le jeu, quand c'était pas assisté, la caméra était extrêmement vivante. Elle suivait les corps et le mouvement des corps. Et ce qu'on appelle une caméra mobilographique, c'est-à-dire qu'elle capte le mouvement.
Ce qui est intéressant dans le jeu Uncharted, c'est justement quand on est en mode libre, enfin qu'on désactive tout ce qui est zoom, visée automatique, assistance caméra, on se retrouve avec un personnage qui justement, de fait, de la position de la caméra, se retrouve à devoir subir certains mouvements, tout ça. Et en fait, ça rajoute quelques petits trucs rigolos dans le déplacement du personnage dans le jeu. Moi, j'ai une petite question justement pour Guillaume, justement. Pour cette soirée jeux vidéo cinéma, est-ce que le Cinémovida pense refaire une soirée thématique dans ce genre-là, ou alors est-ce qu'il y a d'autres thème de soirée que vous voudriez aborder?
Et figure-toi, c'est parfait. Qu'en fait, on va lancer une soirée qui s'appelle Popcorn Reborn, où le but, c'est grosso modo d'imaginer une gigantesque soirée pizza dans le cinéma avec les films qui vont tous se marquer dans les années 90. Donc, si vous avez saigné les VHS de Terminator, Total Recall.
J'ai Laserdisc sinon.
Laserdisc, ça marche aussi. donc jeudi 9 juin, on repasse Total Recall, qui est un des emblèmes absolus de cette période. Version originale, version restaurée, pizza prévue à l'arrivée. Imaginez vous les gigantesques voilà quoi, des gigantesques soirées pizza que vous faites avec vos potes, bah tout simplement dans une salle de cinoche quoi. On présentera le film au début, pour ceux qui les plus aventureux qui veulent rester, on en parlera à la fin, on débat tranquillement. Mais c'est vraiment ça, imaginez vraiment votre petite île de cinéma pop avec vos potes qui seront réincarné dans la salle de votre cinéma.
Et bah c'est génial.
Ouais, ça donne envie.
Jeudi 9 juin à 21h.
Donc jeudi 9 juin à 21h et bah
jeudi 9 juin
voilà.
21h en tout cas. Bon bah c'était une belle émission.
Oui, bah merci Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Et merci pour cette super soirée jeux vidéo.
Ah bah, merci d'être venu.
Et on se dit bah à la prochaine.
Oui, à bientôt.
À la prochaine.
Au revoir les copains.
C'est con, ça va arriver les voisins.